Atrebatia Escales Imaginaires, c'est le nom de cet événement dont c'est la première édition ce week-end. Ça se passe à Arras et c'est consacré à tout ce qui relève du fantastique, de l'imaginaire, de l'héroïque fantasy, etc. On en parle tout de suite avec les organisateurs.
Alicia, je suis créatrice et donc exposante lors de Atrebatia.
Donc moi je suis Alexandre, je suis vice-président et... Non, pas vice-président. Si, vice-président, si, si, et membre du conseil d'administration d'Holrock.
Si tu doutes de ton poste. Romain Plichon, président de l'association d'Holrock qui organise Atrebatia et porteur principal du salon.
Alors avant de parler du salon Atrebatia, d'Holrock, c'est quoi, ça veut dire quoi
d'Holrock, c'est du vieux norrois, la langue que parlaient les anciens vikings, qui veut dire les corbeaux fous. Le nom n'a pas été choisi de manière anodine. Le corbeau, c'est un symbole qui est très présent dans les cultures dans lesquelles on baigne, dans la fantasy, dans les mythologies nordiques et celtiques. Les corbeaux fous, pourquoi ? Parce qu'on revendique un petit peu le fait d'avoir un grain de folie, et c'est ce grain de folie qu'il faut cultiver pour pouvoir vivre dans cet univers et le développer au quotidien.
Alors, Atrebatia, Escales Imaginaires, comment est venue l'idée de, alors pas ce festival, mais ce salon du livre, de l'héroïque fantasy aussi hein?
Oui, en fait, ça vient du fait que l'équipe organisatrice est elle-même souvent dans les salons, mais des autres. Et donc, on a passé beaucoup de temps à rencontrer des gens et beaucoup de gens qui sont parmi les invités, qui seront aussi parmi les visiteurs. Et donc, nous-mêmes visiteurs, nous-mêmes passionnés, ben, on a eu envie de faire ça à la maison. Et voilà l'origine, en fait, d'Atrebatia. Réussir à faire un festival, à faire un événement dans cette culture-là, dans cette dynamique-là. Alors, d'habitude, on fait 350 km en moyenne pour aller sur des événements comme ça. On s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être être sympa à la fois de faire venir les amis à la maison, dans la belle ville d'Arras, et puis aussi, pourquoi pas, de faire découvrir ça à des gens qui ne connaissent peut-être pas encore ce monde, et puis aussi offrir un moment de rencontre à un public dont on sait qu'il existe dans le nord de la France et dont on s'occupe pas beaucoup jusque-là.
Alors j'ai parlé d'Heroic Fantasy, en fait c'est un peu plus large que ça, c'est ça hein?
Bah, c'est toutes les cultures de l'imaginaire, donc il y a l'Heroic Fantasy, il y a... C'est très vaste les cultures de l'imaginaire, c'est... dès que ça nous porte ailleurs que dans la réalité, qui est parfois un peu morne, ça peut faire partie des cultures de l'imaginaire. Donc c'est des choses qui vont se baser sur les légendes, sur les mythologies, sur... Qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? C'est vrai que c'est difficile à définir. Hein.
En fait, le cadre commun, c'est l'imagination. Et à partir du moment où on part sur l'imagination, c'est un monde ouvert. On a quelques cadres, entre guillemets. Nos cadres, c'est la grande littérature, autour par exemple de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, autour de Martin, Game of Thrones. C'est les légendes arthuriennes. Et puis, c'est l'ensemble des contes et légendes qui ont en fait toujours existé. C'est les magiciens, c'est les druides, c'est les dragons, c'est les chevaliers, c'est les fées, les korrigans. Enfin, il y a vraiment le petit peuple. C'est ce qu'on appelle le petit peuple. Les elfes, évidemment, les nains. Enfin, voilà, tout cet univers rempli de créatures merveilleuses qu'on aime aussi à l'occasion, dont on aime aussi à l'occasion enfiler le costume d'ailleurs.
Alors l'idée c'est aussi de partager autour de cette culture avec un public averti et aussi avec un public qui n'est pas connaisseur, c'est ça ?
C'est ça, c'est clairement l'idée. Il y a de ça 3 ou 4 ans, on était nous-mêmes un public un peu novice là-dedans, dans la fréquentation des salons. On avait cette culture qu'on cultivait à travers la littérature, le cinéma, etc. Mais on a vraiment passé le cap il y a de ça quelques années et on a vraiment vécu une aventure comme ça qu'on est toujours en train de vivre et au contraire on cherche à faire découvrir cela. Donc il y a des gens qui connaissent et qui baignent dans cet univers depuis des années et ceux-là sont les bienvenus et on souhaite encore beaucoup plus la bienvenue aux gens qui souhaitent découvrir cet univers, cette fantasy. On est là pour leur en parler, tout simplement, pour mettre ça à leur portée et leur dire que ben, oui, ça existe, oui, c'est possible et oui, on peut le vivre au quotidien.
Three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die.
Tu as parlé d'échapper à une triste réalité morne. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de s'échapper? Bon, on peut se dire, finalement, on arrive dans un monde complètement dépolitisé, justement, dans le but de s'échapper, refuser d'affronter la réalité ou...
C'est pas un refus d'accepter la réalité, au contraire, c'est voir, avoir une autre vision des choses. C'est une philosophie de vie pour certaines personnes, d'autres c'est passer un bon moment devant un livre ou un film, s'échapper. Voilà, c'est pas forcément refuser la réalité, hein, non.
Je dirais plutôt c'est imaginer autrement la réalité. Au contraire, moi c'est vrai qu'à titre personnel, depuis le temps que je baigne dans le monde de la fantasy, de la mythologie, j'ai au contraire un regard qui est beaucoup plus assidu, beaucoup plus précis, beaucoup plus ciselé sur la réalité. Vous prenez des grandes œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, Le Silmarillion de Tolkien, c'était au contraire des livres qui, sous couvert d'imagination et de petits peuples, portaient un regard au contraire très critique sur la réalité. Donc loin de s'en échapper, on essaye justement de voir le monde différemment, de voir le monde sans barrières, parce qu'aujourd'hui le gros problème de notre monde, on parle sérieux mais il le faut, c'est qu'il est rempli de barrières. Et dans un moment comme Atrebatia et dans l'univers médiéval fantastique, héroïque fantasy, on l'appelle comme on veut, les barrières tombent, les barrières sociales, les barrières intellectuelles, les barrières de référence, de valeurs. On est tous dans un cadre commun avec nos valeurs propres, nos préférences. On préfère peut-être plus Tolkien, on préfère peut-être plus les Celtes ou les Vikings, qu'importe. Mais en tout cas, on est dans un cadre commun qui permet juste de se retrouver, de passer du bon temps ensemble, sans barrière. Un ingénieur, un médecin vont pouvoir boire un pot et parler de Tolkien avec un ouvrier, un employé, un aide-soignant. Et on est tous forts de nos expériences différentes. Donc non, on ne fuit pas la réalité, mais on essaye d'en dessiner une autre et ça fait du bien.
Alors on arrive à ce salon, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le programme de ces deux jours? Ça se passera quand même essentiellement au Beffroi à Arras, hein, c'est ça?
C'est principalement effectivement au Beffroi, et quel cadre effectivement, nous on a la chance de pouvoir bénéficier de ce cadre-là. Pour autant, si l'extrême majorité effectivement du programme se passe au Beffroi, on va quand même avoir une conférence justement sur le monde de Tolkien qui va se passer chez un de nos partenaires, à l'Irish Pub, juste à côté du Beffroi, et puis Tortoken le conteur, qui est quand même un des grands conteurs de notre région, mais avec une ampleur nationale, ira conter à la médiathèque où il se passe d'ailleurs l'exposition en ce moment même de Bruno Brucero, qui est le parrain du festival.
Justement, un mot sur cet auteur, c'est ça, auteur BD, dessinateur?
Alors, c'est en fait un illustrateur. C'est un illustrateur qui fait pas mal d'artbook. Il n'est pas exactement dans la BD, même s'il n'est pas loin de ce milieu-là. C'est en fait quelqu'un, un breton, hein, qui est très inspiré par le monde celtique, par le monde légendaire, et qui fait vraiment des œuvres d'une beauté assez incroyable. Enfin, si les gens qui nous écouteront ont eu l'occasion de voir l'affiche, vous voyez un petit peu l'affiche du salon, vous voyez un petit peu ce dont il est capable. Ses influences sont très très nombreuses, il a un dessin qui est très précis, très coloré. On nous demande souvent, dans le cadre de la médiation culturelle qui est faite autour de l'exposition, si c'est de la peinture numérique. Non, c'est bien de la peinture tout court, et donc c'est vraiment quelqu'un de grand talent, avec une très grande renommée. On est vraiment heureux de l'avoir comme parrain à Arras et qu'il puisse être présent dans le Nord, parce que c'est pas facile à avoir Bruno Brucero sur un festival, et on est vraiment vraiment content qu'il puisse parrainer cette première édition.
Bruno Brucero et plus de 20 artistes qui seront présents pour présenter leurs différents travaux, c'est ça?
Oui. En fait, on va avoir environ 25 artistes. On les dit comme artistes parce qu'en fait, le monde de la fantasy, vous l'avez compris, est très très large. Et la manière de s'exprimer quand on est artiste, justement, dans la fantasy, est très très large aussi. On va avoir des auteurs, on va avoir des illustrateurs, on va avoir des conteurs, des gens qui font de l'art de rue et des créations plastiques aussi. C'est vraiment un monde qui est très diversifié. Donc, on a voulu proposer des références différentes, des mondes différents, plus ou moins noir, plus ou moins fantasy, plus ou moins médiéval fantastique, des supports artistiques vraiment différents. On le disait tout à l'heure, il y a peu de chances de rien aimer, a priori, mais il y a de grandes chances d'aimer au moins quelque chose, ça c'est sûr.
Un petit mot, quelques noms qui seront présents?
Oui, effectivement, je dirais dans nos trois noms, entre guillemets, principaux, on a évidemment Bruno Brucero, hein, donc qui est le parrain du festival et qui est édité chez Glénat, enfin vraiment, c'est également un grand nom. On a Claudine Glo, qui est la présidente du Centre de l'imaginaire arthurien, donc vraiment les légendes du roi Arthur seront bien représentées, qui fera d'ailleurs une conférence dans le programme sur les légendes arthuriennes et l'héritage celtique en Europe. Vous avez également Pierre Dubois, qui est juste la personne grâce à qui la fantasy est aujourd'hui reconnue en France, la seule personne dont la profession officielle est elficologue. Donc on a vraiment un grand spécialiste, pour le coup, sérieusement comme moins sérieusement, du petit peuple. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Bernard Pivot, qui a travaillé avec de grands noms de la BD, et grâce à qui aujourd'hui la fantasy est reconnue en France. Et puis on a aussi tout un vivier de grands noms et de grands artistes locaux. Alicia qui participe à cette interview avec nous, qui crée de très jolies croix. On a Jim Colorex aussi, Christophe Duflo pour ne citer que, Amaury Kettel qui a témoigné aussi chez vous. Vraiment des gens qui viennent d'un peu partout, des gens qui viennent de la région parisienne, de Bretagne, de la région lilloise, et puis des gens moins connus. Parce qu'on a envie aussi justement que ces grands noms, ces gens qui sont installés depuis parfois plusieurs dizaines d'années quand on pense à Pierre Dubois, puissent emmener dans leur sillage des gens qui démarrent, des gens qui décollent. On a malheureusement dû refuser des gens pour cette première édition. Dans la seconde édition qui aura lieu, on a bien l'intention aussi de laisser encore plus de place, même si déjà des personnes qui commencent seront des nôtres. On a vraiment envie d'avoir toute cette diversité. Ce monde est absolument riche, donc on a essayé d'en témoigner une petite part de cette richesse.
Donc là, c'est le premier événement, vous parlez déjà du deuxième. La suite, qu'est-ce que vous pensez faire en plus à Arras autour de cette culture ?
Pour donner suite après au festival, la Trébatia ne s'arrêtera pas le 22 au soir, le dimanche 22. Bien au contraire, on va essayer de faire vivre ce monde à travers des événements réguliers qui interviendront à différents moments de l'année et qui prendront la forme de concerts, de conférences, d'expositions, histoire de mêler un petit peu tous les supports possibles pour pouvoir faire vivre cet imaginaire, ce monde concrètement auprès du grand public.
Auprès du grand public, et je rajoute aussi en partenariat vraiment étroit avec des acteurs culturels locaux avec qui nous sommes déjà en discussion pour la suite. On pense par exemple à la Grande Librairie qui est partenaire de l'événement, mais aussi l'Office culturel, la RAS Camera Club, la Compagnie de théâtre Ocali sont des gens qui sont intéressés pour envisager de travailler ensemble. Et donc on a vraiment un cœur. Atrébatia, ça vient du nom Atrébat, on a vraiment pris quelque chose de très local. On a un cœur de faire quelque chose de local pour faire vivre toutes ces énergies, toute cette créativité à l'échelle locale et donc de travailler vraiment en lien avec les acteurs culturels qui existent déjà dans le cadre de projets qui sont montés ensemble.
On était en compagnie de Romain, Alexandre et Alicia de la Guilde d'Olrocre, organisateurs donc de cet événement ce week-end au Beffroi d'Arras et autour à Trébatia. Alors justement, on vous propose maintenant de rencontrer deux des auteurs présents lors d'Atrébatia.
Arnaud Stouff, je suis l'auteur du journal des campagnes du Capitaine Crapaud.
Amaury Kettel, je suis le scénariste des bandes dessinées Elisabeth Bathory et de l'anthologie de poésie Une flamme dans les steppes.
Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément vos œuvres, est-ce que vous pourriez les décrire, s'il vous plaît ?
Il s'agit d'une série de journaux de campagne, de journaux de terrain, donc comme si le personnage principal étudiait les créatures fantastiques de la Belgique, ici en l'occurrence. Donc on retrouve des fées, des kobolds, des sirènes, des sorcières. Donc tout ça est expliqué et représenté vraiment comme si c'était un journal de terrain, avec l'étymologie, l'origine, des cartes, où est-ce qu'on peut les trouver, ce qu'ils mangent, leur religion, leurs croyances, voilà, donc tout ça est hyper détaillé.
Donc c'est sous forme d'artbook, c'est ça ?
Oui, c'est vraiment comme un journal de terrain, c'est un peu comme si le lecteur finalement lisait l'authentique journal de terrain du personnage principal.
Heroic Fantasy, ça, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous faites ?
Oui, donc c'est un peu particulier parce que si on pourrait qualifier ça d'urban fantasy ou de fantasy contemporaine, puisque contrairement à la plupart des éléments fantasy qu'on trouve à l'heure actuelle, ça ne se passe pas dans une période plus ou moins moyenâgeuse, mais c'est bien contemporain. Donc par exemple ici, il n'y a pas de chevaliers en armure, ils sont avec des casques en kevlar, avec des gilets anti-éclats, donc vraiment comme les soldats que nous avons à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'épée, mais des fusils automatiques, mais on retrouve des créatures, voilà, comme les sirènes, les fées, ça se passe aussi dans des lieux réels, Donc ça ne se trouve pas en Terre du Milieu ou en Mordor ou dans des pays complètement imaginaires. Ça se trouve vraiment en Europe. Et c'est vraiment calqué sur l'actualité telle qu'elle est à l'heure actuelle.
Oui, alors il y a pas mal de tomes déjà.
Ben oui, à la base, ça devait être un tome unique. C'était voilà, normalement un one shot. Et puis bon, finalement, voilà, on est déjà à 4. Le cinquième devrait sortir en automne cette année. Et normalement, la série devrait compter entre 8 et 10 exemplaires.
Dessinateur et aussi auteur des textes, c'est ça alors, hein?
Exactement, oui.
Alors vous êtes l'auteur des textes, hein, c'est ça, de
voilà,
plusieurs œuvres.
Donc notamment là dans le cadre du festival, pour je viens présenter une BD que j'ai scénarisée qui s'appelle Elisabeth Bathory, qui est en deux tomes. Le premier tome qui s'appelle Le Temps de l'éveil et le deuxième Le Temps du glaive. Je l'ai réalisé avec l'illustrateur Laurens Rasson qui habite maintenant en Bretagne, ce que les fans d'imaginaire nomment Brocéliande. Et donc ça reprend le personnage historique de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui a vécu fin 16e, début 17e siècle, qui a été surnommée la comtesse sanglante, parce que dans les légendes urbaines rapportées via Wikipédia et deux, trois romancières, elle aurait assassiner une centaine, voire des milliers de vierges pour prendre des bains de sang afin de retrouver la jeunesse éternelle. Mais nous, ça ne nous intéressait pas trop cette histoire. En fait, nous la faisons revenir trois jours après sa mort, comme un parallèle avec Jésus-Christ qui revient trois jours après sa mort au moment de Pâques. Et elle est là pour défendre le folklore et tous les monstres de l'imaginaire et les croyances païennes et autres par rapport à la montée de l'Église, du christianisme et de la folie sanglante orchestrée par l'Inquisition. Elle revient sous la forme d'un vampire, c'est l'unique vampire de la série, et c'est une critique assez noire de l'être humain sans manichéisme dans toute sa folie que peuvent engendrer les croyances, tout simplement. C'est aussi une manière de remettre un peu en place, à ma façon, le féminisme, parce que c'était quand même, de son vivant, une grande... Bathory était très attachée aux libertés, elle parlait, écrivait en 5 langues, elle était sexuellement très libérée aussi pour l'époque, par rapport aux histoires qu'on a pu avoir, et c'est un peu un pied de nez à ce drôle de féminisme que je trouve qu'on a aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est une femme libérée, forte, de pouvoir, qui va essayer de prendre l'ascendant par rapport à ce monde noir qui nous entoure.
Alors c'est vrai en tout cas moi j'avais l'idée que les gens qui sont intéressés par l'heroic fantasy, par les mondes imaginaires, c'était plutôt des gens qui voulaient s'échapper du monde et arriver dans un monde un peu peut-être dépolitisé aussi, en tout cas différent du nôtre. Dans ce que vous me décrivez là, c'est quand même, il y a pas mal de politique aussi.
Bien oui, disons qu'il y a une chose qui peut être remarquée, c'est que la fantaisie fonctionne bien en période de crise. Bon, comme ici malheureusement nous sommes en plein dedans, ben, ça fait bien fonctionner la fantaisie puisque les gens ont besoin de rêver, ils ont besoin de sortir des sentiers battus, ils ont besoin d'aventures, ils ont besoin d'imaginaire, histoire de sortir un petit peu de l'horreur qu'on voit tous les soirs, tous les jours. Et puis bon, voilà, malheureusement il y a à peine un mois, la réalité a rattrapé l'imaginaire. C'est bien malheureux, mais donc voilà c'est un besoin que les gens ont. D'ailleurs je ne sais plus quel philosophe a dit que si l'homme ne rêvait pas il serait complètement fou. Voilà, ben certains s'ils ne rêvent pas la nuit sont obligés de se retrouver dans les livres, de se retrouver dans les films, de se retrouver dans les séries pour pouvoir échapper finalement à cette prison qu'est le réel.
Et d'essayer d'avoir aussi, je prêche pour ma propre paroisse, je ne vais pas prendre la parole en ton nom Arnaud, mais je vois aussi dans l'imaginaire le fait de pouvoir poser un regard critique sur nos réalités, parce qu'on a chacun notre propre réalité, sur les mondes qui nous entourent. Et ça peut être un moyen détourné, comme on peut le trouver dans le cinéma, dans d'autres genres de littérature, dans l'art en général, comme on peut faire de grands peintres, par exemple, ou de grands sculpteurs, pour poser un regard critique sur la société de leur époque et autres.
Alors vous serez tous les deux présents, vous ferez partie des 25 invités de ce ces escales imaginaires d'Atrebatia. Alors un petit mot sur Atrebatia, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi je trouve que honnêtement c'est une très très bonne idée parce que bon voilà, je trouve que Arras c'est vraiment une ville qui a une architecture, qui a à mon avis une culture qui correspond tout à fait à ce type de festival. Et bon, voilà, je pense que le Nord est aussi une terre qui est assez fertile pour ce genre de côté imaginaire, de côté fantasy. C'est vrai qu'on a toujours tendance à essayer de placer ça du côté de la Bretagne, du côté de l'Irlande, de la Grande-Bretagne en général, chez les Celtes, de façon plus générale. Mais c'est vrai que généralement dans le Nord, dans les régions minières, là c'est vrai que y a personne qui a osé. Bon voilà, maintenant par le trait d'Atrebatia, ben voilà, il y a un festival qui se met en place. Et voilà, il y a de plus en plus finalement aussi d'histoires de fantasy qui commencent à rejoindre plus ou moins cette région. Et je pense que les gens en avaient besoin. Et quelque part, ça nous change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir aussi.
Tout d'abord, c'est le fait de le faire dans la ville d'Arras, qui est franchement une chouette ville. La municipalité qui dit OK pour ce genre d'événement, bah voilà, ça c'est quand même à souligner parce qu'on n'est pas d'habitude. Ça se fait OK dans le Nord, en Belgique. Ou dans pas mal d'autres coins en France, mais c'est dans des petits villages ou autres. Bon, je parle pas de festivals comme Provins, qui sont là des institutions depuis je sais pas combien d'années, mais voilà, là, il y a la volonté de créer une nouvelle dynamique, d'apporter du sang neuf au niveau de la région, de créer aussi un échange transfrontalier et interrégional. Et voilà, ça peut être que bénéfique, quoi, parce qu'il y a énormément, rien que si je compte, parce que je viens de Lille, si je compte sur Lille, mais le nombre de personnes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, qui bossent, qui écrivent, qui font de la musique, qui peignent, qui sculptent, qui touchent à tous les domaines de l'art, dans les divers mondes de l'imaginaire, suivant n'importe quelle influence. C'est énorme, et ça, il faut réussir à rassembler ces forces-là, quoi. Je vois des gens comme Jim Colorex, comme Arnaud, comme Capia, comme Laurence Rasson, Magali Kaour, qui vont nous dépeindre des décors, des personnages avec des détails incroyables et qui vont apporter une réelle valeur ajoutée à la chose avec une nouvelle vision. Et ben ces gens, il faut les montrer.
Amaury Quettel, co-auteur de Elisabeth Bathory, et Arnaud Stouffs, auteur du journal de campagne du Capitaine Crapaud, deux des auteurs présents ce week-end à Atrebatia, escales imaginaires. Ça se passe donc samedi dimanche à l'hôtel de ville d'Arras, salle du rez-de-chaussée, de 9h à midi et de 14h à 18h. Il y aura aussi des animations sur le marché le samedi matin, du conte, la conférence Les mondes de Tolkien, sa vie, son œuvre, donc c'est le samedi à 16h au Irish Pub, et puis la conférence Légende arthurienne et héritage celtique a lieu elle dimanche à 15h. Plus d'infos sur un site atrebatia.e-monsite.com. On mettra ce lien sur notre site internet à nous, radiopfm.com.